Seigneur, nous sommes venus entendre la parole qui relève, la parole qui guérit, la parole qui ouvre les yeux sur demain, parce que demain n'est pas à nous, demain appartient à l'Éternel. Et nous voulons demain, aujourd'hui, t'appartenir, être dans le chemin de Dieu, serrer dans notre cœur les paroles de Dieu, que rien ne nous les enlève, que les oiseaux du ciel ne viennent pas picorer cette bonne semence, mais qu'elles nous tiennent debout face au chagrin, au deuil, aux maladies, aux tempêtes de la vie, aux échecs. Seigneur, que ta parole nous donne la force de vivre en paix, en joie. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Je vous remercie pour votre présence. Mais même s'il n'y avait personne, il faut que je prêche l'Évangile. Vous savez qu'un jour, quelqu'un a prêché l'Évangile dans une église vide. On ne sait jamais. Et il y avait sur le toit, ce n'était pas un toit comme ça, il y avait sur le toit un couvreur qui était en train de faire des réparations et qui entendait l'Évangile. Et là-haut, sur le toit, le couvreur s'est converti. Alors, il y a peut-être un couvreur quelque part, vous. Ce matin, pendant que je prêchais, il y avait quelqu'un qui s'est introduit dans l'église, incognito, tout petit, invisible. Il a entendu l'Évangile. C'est une petite souris. Bon, on ne prêche pas pour les souris. Hein. On prêche pour vous, pour moi. Et j'aimerais lire avec vous, mes amis, frères et sœurs, l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11. La souris, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Je ne sais pas comment elle est arrivée chez nous. Ce n'est pas l'arche de Noé ici. Hein. Luc, chapitre 15, verset 11, c'est l'histoire connue du fils prodigue. Il y avait deux fils, en fait. Les deux fils avaient besoin de revenir au Père. Nous avons tous besoin de revenir à Dieu. Un fils a eu le mérite de rester à la maison. L'autre est parti. Et la catastrophe, ça a été pour celui qui est parti. Mais l'autre... Le père lui a demandé de revenir, il était jaloux que son frère revienne. Est-il revenu à la maison? Est-ce qu'il n'est pas devenu lui-même un fils prodigue? Je ne sais pas. Voyez-vous, on n'est jamais sûr de rien. Aujourd'hui, nous montrons du doigt des fils prodigues, demain ce sera peut-être nous ou un enfant. Nous lisons. Luc 15, verset 11, vous m'entendez bien? Ça va? Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, c'est-à-dire l'héritage. » Et le père leur partagea son bien. Notaire, etc., etc., vous devinez. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier. Regardez le mot rassasier. Hein. Quand on a faim, on trouve bon tout. Se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva. Tout commence là. Et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il ne continue pas sa phrase. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Qu'est-il arrivé à ce garçon de bonne famille? Où avons-nous la tête, mes amis? A-t-il oublié tout simplement son père? Je connais des enfants qui ont oublié leurs parents, qui n'y pensent jamais, qui n'envoient jamais une lettre, jamais un coup de fil. Je pense qu'avec Dieu, c'est un peu ça. On oublie. Mais au fond de nous-mêmes, combien de fois j'ai entendu cette parole? Oui, mais enfin, il y a bien quelqu'un là-haut. Donc ce n'est pas un oubli complet. Il y a bien quelqu'un au-dessus de nous. Je l'ai souvent entendu, cette expression. C'est pourquoi Jésus, quand il nous apprend à prier, il nous dit, quand vous prierez, vous direz, « Notre Père, qui est aux cieux ?» Au-dessus de nous, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui nous dépasse, puisqu'il est aux cieux. On a du mal à se représenter. Quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer. Il est plus haut que les cieux. On ne peut pas l'enfermer dans notre imagination, dans nos rites, dans notre manière de vivre. Mais en quoi avons-nous offensé Dieu? Un Dieu si lointain, si grand, si riche, qui paraît parfois indifférent, parce qu'on voit sur la terre des choses ignobles. On voit sur la terre un gaspillage de vie, un gaspillage de corps, d'âme, de jeunesse. En quoi l'avons-nous offensé? Puisqu'il est si loin. Jésus nous a parlé que Dieu était proche. Et quand Jésus était sur la terre, quand il était dans la barque, dans la tempête, il semblait indifférent. Il dormait au fond de la barque. Alors que la barque était remplie par les flots, on avait l'impression que ce Christ, ce Dieu fait homme, il était indifférent à tout. Oui, mais il est dans la barque. Il n'est pas sur le rivage en train de boire une limonade et en nous disant « ramez, ramez ». Il n'est pas sur le rivage. Il est dans la barque, il se mouille, il est avec nous, avec les apôtres, pour nous dire que Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas distrait, Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons, mais il est présent, engagé dans l'humanité. Il n'a pas créé l'humanité comme on fait une boule de bois pour la lancer, en disant « hop, on verra bien ce qui arrivera ». Il est dans l'humanité, en chacun. Dieu n'est pas loin, disait l'apôtre Paul. Il est tellement pas loin qu'il a fait avec les êtres humains depuis le commencement des alliances. Une alliance, c'est quoi une alliance? C'est se lier à quelqu'un. Il a fait alliance avec Abraham, avec Moïse et d'autres. Il s'est lié comme un mariage. comme une cordée. Vous savez, les alpinistes qui montent la montagne, ils sont tous attachés les uns avec les autres, et nous sommes attachés avec Dieu. Et si on tombe, Dieu nous tient. Il est lié avec nous. Bon, je vais prendre un bel exemple, je pense. Comme une mère est liée à son enfant. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours la mère. Elle ne peut pas renier son enfant, son accouchement. On ne peut pas se renier. Eh bien, Dieu est lié avec nous. Comme ce père est lié avec l'enfant. La preuve que Dieu est lié avec nous, il est présent là où on ne l'attendait pas. Il est présent dans la mort de la croix. On ne l'attendait pas là. On aurait pensé, il y a un Dieu qui domine avec son cheval, qui domine sur les montagnes, surtout. Dieu est descendu, lié par son amour, jusque dans la mort. Et là, il est vraiment plus bas que nous. Et aussi bas sommes-nous tombés, Dieu est toujours plus bas pour nous relever. Et là, il ne bouscule pas. Il frappe à la porte. J'aime beaucoup cette expression. Dans l'Apocalypse, il frappe à la porte. Il ne fait pas sauter les verrous. Par magie, par force, il est présent et il nous appelle à ouvrir la porte. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas une terreur, c'est quelqu'un qui nous respecte. Dieu n'est pas absent. Le Père n'était pas absent. Il était discret. Il attendait. Il attirait. Il agissait. Dieu agit, attire, appelle. On ne le sent pas toujours. Mais quand on écoute l'Évangile, comme cet après-midi, vous pouvez ressentir dans votre cœur que oui, à certaines occasions, aujourd'hui même, vous sentez le besoin de quelque chose d'autre pour que la vie soit calée. Mais le père qui attend dans la parabole les deux fils, il y a un fils qui fait la tête, puis l'autre qui est parti, les relations sont faussées partout. La relation du petit, la relation du grand, la relation du père entre les fils, avec le père, tout est faussé. On est parfois dans des familles où tout est faussé. Et entre Dieu et nous, c'est faussé aussi. Décidément. Abel et Caïn. Dès le début, il n'y avait qu'eux sur la terre. Ils avaient tout à eux. Ils pouvaient s'installer en France, en Bretagne, en Angleterre. Tout était faussé. C'était la fraternité, l'inégalité et la rivalité. Il y a des rivalités partout, vous ne trouvez pas ? Il y a des inégalités partout. Il y a des conflits partout. Même avec Dieu, celui qui nous donne la vie chaque jour. Et Dieu est offensé. Qui est ce père si vulnérable, qui possède tout, qui n'a pas besoin de mon argent, de ma vie, de mon souffle de vie, qui n'a pas besoin de rien. Comment se fait-il que ce Dieu si grand soit vulnérable ? Oui, on n'est blessé que parce qu'on aime. Si on n'aime pas, on ne risque pas d'être blessé, ça glisse, on nous fait du mal et puis ça glisse. Mais quand on aime, quand on a de l'amour, de l'amitié, on prend le risque d'être blessé. Parce que ceux qui aiment sont comme Dieu, sont sans défense. Quand on aime, on est sensible au moindre oubli. Quand un fils n'appelle pas sa mère, il a oublié. La mère, c'est dur. Quand on aime, on est sensible, on est vulnérable. Et Dieu est sensible et vulnérable. Nous l'avons blessé parce qu'on a eu une discorde avec lui, grave. Le mal est apparu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il est apparu avec le soupçon. On a soupçonné Dieu. Le serpent est venu représentant le diable, incarnant le diable. Et il a dit à nos premiers parents, Dieu a-t-il vraiment dit ? Ça veut dire, il vous a peut-être menti, il a peut-être triché, il vous cache des choses, il vous domine. Le soupçon. Et quand le soupçon rentre dans un cœur, on ne croit plus dans l'autre. Et c'est peut-être le péché de tous les hommes. On s'éloigne, on n'a plus confiance, on finit par ne plus aimer. Mais dites-moi, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il pense de son père ? Il est parti, mais j'aimerais bien aller l'interviewer. Que pensez-vous de votre père, monsieur le prodigue ? Je pense que dans son imagination, il ne voit pas son père comme il faudrait. Il le voit défiguré. Nous voyons parfois Dieu défiguré. On le voit comme un dictateur, il faut rendre des comptes, il n'est jamais content. On disait autrefois un père fouettard. Il y a de moins en moins de pères fouettards, remarquez. Le péché, c'est une rupture. Une rupture, c'est quand on défigure Dieu, quand on lui donne des sentiments qu'il n'a jamais eus. Il est arrivé dans l'histoire que des parents sacrifiaient des enfants. Abominable, ça n'a pas de sens. Et Dieu disait, ça ne m'est jamais venu même à la pensée de croire que vous pouviez faire ça. On défigure. Le péché, c'est vouloir être le maître de sa destinée. On décide, on tranche, on coupe. Le péché, c'est faire violence contre Dieu. C'est la violence, le péché. L'apôtre Paul dit, nous sommes des ennemis. Un ennemi, ce n'est pas tendre un ennemi. Nous sommes des ennemis en pensant contre Dieu, en agissant comme Dieu ne veut pas. Mais le résultat, ça ne va pas loin. L'être humain qui rêvait d'être maître de sa destinée, de voguer sur les flots, voilà que l'être humain se retrouve comme le fils prodigue qui s'en va dans un pays étranger, un pays loin du Père. Je n'ai pas dit loin de Dieu, mais loin du Père. Il se découvre nu, fragile, mortel, affamé, sans rien. Parce que quand même, quand on voit l'histoire, c'est que personne ne lui donnait à manger. Il n'y avait même pas une petite dame qui aurait donné un bout de pain au passage. Ou le propriétaire des cochons qui aurait dit, bon ben, mange la pâtée des cochons au moins. Même pas. On lui interdit de manger. Le péché, c'est cela. On ne veut pas être mangé par Dieu. On ne veut pas que Dieu ait une prise sur nous. Mais le mal nous dévore. Le mal nous domine. Jésus disait, celui qui se livre au mal est esclave du mal. Il y a une puissance dans le mal que je ne comprends pas. Il y a un mystère que je ne comprends pas. On joue avec et c'est lui qui joue avec nous. On le titille, mais c'est lui qui nous cherche. On n'est pas maître contre le péché. C'est lui qui est le maître. C'est pas rien. Alors, aimer, c'est dépendre de l'autre. Et avec Dieu, je pense que nous sommes appelés à dépendre de lui, à nous lier à lui, à le recevoir sans cesse. Parce que voyez-vous, le péché chez le fils prodigue, ça a été quand même une rupture de vie. Il n'y avait plus rien, il avait tout dépensé. Il n'y avait plus aucune vie qui venait d'ailleurs, comme une branche qui se coupe par un coup de foudre, une branche qui tombe de l'arbre. Eh bien, la branche, elle va se pourrir, va se dessécher, elle ne pourra pas reprendre vie, c'est fini. Ainsi, nous nous sommes coupés de Dieu. On a perdu notre identité. On n'est plus maître. Au temps de Noé, les gens avaient lâché la main de Dieu. Toute l'humanité. J'ai froid dans le dos quand je dis ça. Et leurs pensées étaient sans cesse tournées vers le mal chaque jour. C'était plus maître des pensées. Ça tournait complètement à l'envers. Et une personne était maître. Tous les jours, ils pensaient au mal. Et ils se mariaient, ils devaient penser au mal. Ils avaient des enfants, ils pensaient encore au mal. Ils avaient des petits-enfants, et ils mariaient leurs petits-enfants, ils pensaient encore au mal. Toute leur tête était dans une mécanique infernale. Chaque jour, ils pensaient qu'au mal. C'est pas rien. Ils ont perdu leur identité. Mais voyez-vous, cette violence-là n'a pas d'avenir. Une violence contre Dieu n'a pas d'avenir. Une violence contre ses parents n'a pas d'avenir. Une violence contre son prochain n'a pas d'avenir. Parce que vous savez l'histoire de Noé ? Ben Dieu a détruit la terre en laissant une famille pour recommencer. C'est grave, hein ? Alors, on revient dans notre parabole. Hein ? On revient chez le fils prodigue. Ce père qui est offensé, ce Dieu plutôt qui est offensé, Jésus nous montre que c'est un Père qui nous aime sans condition. Il ne dit pas « je t'aimerais si tu fais ça, si tu réussis ». Il nous aime sans condition. Il aime son Fils en tout temps. Il l'a aimé quand il était à la maison. Il l'a aimé quand il est parti. Il l'a aimé quand il était dans la détresse. Il l'a aimé quand il est revenu. Un Dieu nous aime en tout temps, en toutes circonstances, il faut le dire. Le péché, voyez-vous, ce n'est pas désobéir à une loi aveugle, ne pas stationner, c'est une loi ça. Si on stationne, hop, un PV. Mais ça, c'est le péché, ce n'est pas désobéir à une loi, mais c'est ne pas aimer quelqu'un qui nous aime, c'est plus grave. C'est ne pas aimer quelqu'un qui nous accepte tel que nous sommes et qui nous a fait et qui nous aimera toujours. Et nous, on dit non, je ne t'aimerai jamais. Ça, c'est un péché. Ça, c'est grave. Le péché, c'est un refus d'amour. Et le fils prodigue s'en va. C'est ça, le péché. Il s'éloigne de la maison du Père. Moi, je résume comme cela, quand je passe dans les écoles ou quand je vois des gens pour les premières fois, c'est quoi le péché ? Est-ce que c'est manger des bonbons ? Non, le péché, c'est s'éloigner de Dieu. On prend du recul. Et quand on s'en va, on ne sait plus comment on est. Le fils prodigue, avez-vous remarqué, quand il est revenu, il a dit... « Je ne suis pas digne d'être ton fils. » La voix de la culpabilité. « Je ne vaux rien. Je ne suis rien. » Il s'abaisse, il tombe, il descend. Il se pourrit. Parce qu'il a touché l'amour de Dieu. Et il descend. « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas un fils. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis rien. » Grave, hein ? Fils prodigue, il a découvert la gravité de son mal quand il a vu son père ému jusqu'aux larmes, son père pardonnant. Vous savez, la découverte de notre misère vient de la rencontre avec Jésus-Christ. En découvrant la beauté de Jésus et son pardon, on découvre sa misère. Il faut lire l'Évangile pour avoir le reflet de ce que nous sommes. Tant qu'on n'a pas la parole de Dieu qui nous touche, on se dit, je vais bien, je suis le meilleur, je ne mourrai jamais, je vieillirai jamais, je tomberai jamais. Mais quand on voit l'Évangile, on se dit, attention à toi, attention à toi. Tu es en train de toucher aux cordes sensibles de ta vie. Je ne suis pas digne, je ne vaux rien, le pauvre garçon. Je ne veux pas que tu me prennes comme un fils. Tu n'es pas mon père. pratiquement ça. Le père, il inverse la culpabilité. À ce fils qui disait, je veux être qu'un ouvrier. Le père, il a dit, voici mon fils. Oh bon. Lui, il dit, je veux être qu'un ouvrier, je suis rien. Tu es mon fils. Beau, magnifique, bravo, 20 sur 20. Il inverse la culpabilité. Mon fils que voici. Il dit pas cet étranger, ce pouilleux, ce bon à rien. Il dit mon fils, attention, ça compte. Et le fils aîné l'écoute. Mon fils, tu peux vivre. Mon fils, je veux que tu vives. Tu seras toujours mon fils. C'est ça? C'est ça l'amour d'un père, l'amour de Dieu? Vivre, c'est s'accrocher à ce désir de Dieu qui me déclare fils, fille, accepté. Malgré tout ce que j'ai fait d'inacceptable, malgré tout ce que j'ai fait de mauvais, Dieu me dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'accepte, c'est ça la vie. On s'accroche à cette parole, à cette déclaration d'amour de Dieu. Ah, on entend hein, des belles paraboles. Et le fils, oui, il se sent coupable, je vous l'ai dit, je ne suis pas digne, je ne vaux rien, Seigneur. Enfin, il devait se dire, enfin, je suis toujours vivant, je vais manger. Ah oui, je ne vaux rien, je ne fais rien, je suis un malade, un insensé, j'ai fait que des bêtises dans ma vie, mais enfin, je suis vivant. Non, dit le père, non. Mon fils que voici était mort. Attention à toi. Parce que parfois, on va dans le péché, puis on dit, bon, ça va aller quand même, on s'en sortira. Bon. Le père dit, tu étais mort, mon fils. Et tu es revenu à la vie. Tu étais perdu. Et tu es retrouvé. On a l'impression que le père, il dit, tu es coupable. Totalement, pas à moitié. Oui, mais enfin, j'ai peut-être fait quelque chose de bien, mais enfin, tout n'est pas mauvais en moi. Tu étais mort, mon fils, mais maintenant tu reviens à la vie. Le fils n'est pas seulement coupable, c'est un mort vivant. C'est pas seulement un homme qui s'accuse, c'est un homme perdu. L'évangile, c'est ça. À la fois, ça dit tu es totalement perdu, et puis au même moment, ça dit tu peux être totalement sauvé. C'est ça l'évangile. Une culpabilité radicale, totale, pour un pardon total. Pas beau? Alors, le Père va saluer le retour du Fils prodigue comme une résurrection. Pas une amélioration, pas un petit moment, je sens dans ses yeux qu'il l'a mieux. Une résurrection. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Alors, pour conclure, je pense à cette parole de David dans le psaume 51, qui est magnifique. Vous pouvez le lire, le relire, le chanter. Le psaume 51, David, il a fait des péchés. C'est un fils prodigue, David. Il est descendu très bas, très très bas. Et David, il dit à Dieu dans sa sincérité. David, c'est un homme qui a la faculté. C'est ça, c'est en cela que je l'aime. C'est pas un homme parfait, il a fait des erreurs. Mais ce que j'aime chez lui, que j'aimerais voir aussi chez beaucoup, il sait rebondir dans les bras de Dieu. Il dit pas j'ai raison parce que tu sais, il y a l'autre, il m'a dit ceci. J'ai fait mal, Seigneur, j'ai péché. Et David, il dit à Dieu, oh Dieu, c'est beau, comme le Fils prodigue, crée en moi un cœur pur. Besoin de Dieu pour passer du néant à la vie. On a besoin de Dieu pour sortir de notre vie sans Dieu. Le prodigue ne peut rien faire. On peut lui donner à manger, bien sûr. On peut lui mettre une belle robe, lui laver les pieds, il sent mauvais. Bien sûr, on peut faire des bonnes actions comme ça. mais le changer lui dans son cœur pour qu'il dise « Papa, tu sais, je t'aime. Papa, je suis malheureux, mais je t'aime de tout mon cœur. » Ça, il faut une création. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Il ne s'agit pas que les enfants, ils aient le ventre plein. Il faut qu'ils aient aussi le cœur plein. Plein par l'amour du Père. Mais voyez-vous, on a tourné un peu dans cette parabole, on peut encore en parler pendant des siècles, mais on a dans cette parabole tout le miracle de l'Évangile, tout le mystère de l'Évangile. Dieu fait de nous des êtres tout neufs. Comprenez-vous pour ce que je vais vous dire maintenant, comme si le péché ne nous avait jamais abîmés. C'est pas beau ? C'est beau ou c'est pas beau ? Dieu fait de nous des êtres tout neufs, comme si le péché ne nous avait jamais abîmés dans notre cœur. Il a fait des prodiges dans toute l'histoire. Il nous a donné le moyen de réparer, parce que David a réparé en allant dans la conversion. Il est allé dans un passage des ténèbres à la lumière. Il est allé se jeter dans les bras de Dieu. Ça s'appelle la conversion. Quand le prodigue, il revient à la maison, là, c'est sa conversion. J'irai vers... Conversion, ça veut dire revenir. En hébreu, c'est revenir. Quand on dit je reviens, ça veut dire je me convertis. Il revient. Il revient dans les bras de celui qui peut le guérir. Parce que quand on pêche contre Dieu, on fait mal à Dieu, on fait mal aux autres, on fait mal à soi-même, on fait mal à son mental, on fait mal à ses images intérieures qui tournent mal. La pornographie détruit l'image intérieure. Ça, tout est bloqué, détruit, ravagé. C'est compliqué. L'être humain, c'est pas une machine, attention. Le pardon, c'est pas seulement avoir une belle robe, passez-lui une belle robe, des souliers aux pieds, du 42 s'il vous plaît, attention. C'est pas seulement ça. Le pardon, c'est, David le dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que si j'ai pas un esprit d'enfant, un esprit stable, aimant, je vais vous dire, un esprit rempli de Dieu. Je ne vais pas tenir. Tout est compromis, tout est fragile, tout est instable. Si en moi, je ne te dis pas, papa, comme au premier jour, quand j'étais tout petit, que tu me conduisais à l'école, si je ne suis pas capable de te dire, papa, je t'aime, c'est bien, ça ne va pas encore en moi. Il faut que tu me changes, pas seulement mes souliers qui sont usés, mais que tu me changes mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas, dit David, loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas. Mais oui, au fait, j'y ai jamais pensé. Le père, il aurait pu dire, bon, mon gars, écoute, tu vas manger une soupe, tu vas prendre un bain, et puis tu retournes à la rue. Parce que tu l'as choisi, tu y vas. Si le père se désintéressait de son enfant, s'il ne le regardait plus, je crois que le fils prodigue irait à une déchéance totale. Et David l'avait compris, ne me rejette pas, sinon je suis perdu. Jésus veut que nous soyons à lui. Amen. Pas seulement pour un petit lavage de l'âme, mais totalement à lui. La foi, ce n'est pas seulement une opinion. Oui, je crois que Dieu, peut-être que Dieu existe. Je vais vous le redire demain matin. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une rencontre avec Dieu. C'est Dieu qui nous a parlé. C'est avoir confiance dans la main qui tient notre main. Et je peux vous dire que, en voyant le Fils prodigue, et tous les prodigues que j'ai connus dans l'histoire, ben, j'ai appris leur histoire, je peux vous dire qu'aucune puissance de ténèbres, aucune puissance de ténèbres, aucun péché ne peut nous empêcher de devenir enfants de Dieu. Amen. Et bravo Seigneur. Rien. Oui, mais je ne suis pas, ce n'est pas ma nature. Rien ne peut t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Oui, mais enfin moi, ce n'est pas comme les autres. La foi, c'est tout recevoir de Dieu. La foi, c'est un appel de Dieu à sa parole. C'est l'engagement de notre vie, de l'extérieur, l'intérieur, du passé, du présent, de l'avenir, des zones sombres, des zones claires, des blessures, des joies. C'est le don de notre vie. Bon, je finis. J'aime bien la dernière parole. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il est revenu, c'est fait. Au moment où il a commencé à poindre le bout de son nez, il est revenu. Comme si une parole, un flash de lumière l'avait recréé. Mon fils est revenu. Il est vivant. Jamais sur la terre, nous trouverons quelqu'un qui a une parole aussi puissante, efficace, appropriée, juste, aimante, comme Dieu, comme ce Père admirable, admirable ce Père, hein, ce Père qui prend l'enfant dans ses bras. J'aurais dû mettre le tableau de Rembrandt, mais je vais le faire. Ce Père qui prend l'enfant dans ses bras et qui dit cette parole, « Mon fils était mort. » Triste, hein? Il est revenu. C'est fait, c'est déjà fait, c'est pas « Il reviendra », il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. Amen. Je prie le Seigneur avec vous, que Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, nous revenons. Nous voulons revenir à Dieu. Quelle folie sans Dieu! Quelle désintégration, tout est à l'envers. Mais nous voulons croire que dans le royaume d'en haut, des paroles nous sont envoyées pour que nous puissions connaître cette vie, cette transformation, cette conversion du Fils prodigue, de David et de tant d'autres. Seigneur, le péché nous a retirés, mais toi tu nous attires plus fortement. Tu nous dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, détruits, malades, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen.